Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons John Ngomboa. Il est journaliste, il est directeur des informations d'Antenne A, une télévision privée qui émet de Kinshasa. Bonjour John Ngomboa.
Bonjour Guy Maté, bonjour à tous les auditeurs des radios Okapi en RDC à travers le monde.
Madame Bernadette Kamango, elle est défenseuse des droits des femmes, elle est également autrice d'ouvrages sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Bonjour Madame Bernadette Kamango.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, c'est Eddy Kaba, il est journaliste universitaire, il est président du Centre international des réflexions et d'études sur le Sahel, think tank basé à Paris. Il a publié plusieurs ouvrages, notamment « Le Sahel, notre Afghanistan ». Bonjour, c'est Eddy Kaba.
Bonjour à vous-même, bonjour à tous vos auditeurs ainsi que mes co-débatteurs.
Merci, à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité.
Mon ton son, notre votre leur.
Le français parlons-en, c'est tous les samedis à 13h05. Rediffusion dimanche à 6h30, lundi à 14h20 et 20h15 sur Radio Okapi.
Parlons français. Le français parlons-en.
Le français parlons-en. Un programme de Radio Okapi coproduit avec l'ambassade de France en RDC et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le français parlons-en, une autre façon d'apprendre et de parler le français.
Parlons français.
Nous sommes dans regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de John Ngomboa. Il est journaliste, il est directeur des informations d'Antenne A, une télévision privée qui émet de Kinshasa. Madame Bernadette Kamango, elle est défenseuse des droits des femmes. Elle est également autrice d'ouvrages sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, c'est Eddy Kaba, il est journaliste et universitaire. Il est président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, think tank basé à Paris. Il a publié plusieurs ouvrages, notamment « Le Sahel, notre Afghanistan ». Trois sujets au menu de cette émission, à savoir le conclave d'une frange de l'opposition congolaise à Nairobi, convoqué par l'ancien président Joseph Kabila, met en place une nouvelle plateforme politique dénommée « Les mouvements sauvons la RDC ». Signature entre le gouvernement congolais et les rebelles de l'AFC M23 d'un accord sur les mécanismes de surveillance et de vérification du cessez-le-feu dans la province du Nord et du Sud Kivu. Et enfin, le monde a célébré le 15 octobre la journée internationale de la femme rurale pendant que cette femme garde toujours l'image de la pauvreté. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire sur le paradoxe entre l'appréciation constatée du franc congolais et les maintiens des anciens prix sur le marché. En effet, les francs congolais connaît depuis quelques temps une appréciation rapide face au dollar américain. Alors que les taux d'échange affichaient au mois de septembre 1 dollar pour environ 2850 francs congolais, à ce jour le dollar s'échange officiellement à environ 2300 francs congolais. Il oscille autour de 1850 à 2000 francs chez les cambistes malgré la mise en garde faite à ces derniers par les autorités compétentes. De nombreux ménages dans certaines villes de la RDC se plaignent que la baisse du taux des dollars n'ait pas influencé les prix des biens et services sur les marchés. Réagissant mardi 14 octobre à Radio Okapi, il lance un cri d'alarme au gouvernement pour revoir cette instabilité financière. Ils disent ne pas sentir l'impact de cette baisse des taux sur les biens alimentaires. D'autres accusent même le gouvernement congolais de ne pas faire assez pour mettre fin à la spéculation sur les marchés d'échange. John Ngomboa, les francs congolais s'apprécient mais restent instables et provoquent la spéculation qui entraîne à son tour la baisse du pouvoir d'achat de la population. Comment vous jugez cette stratégie de la Banque centrale, John Ngomboa?
Ben, moi, je pense que cette stratégie mérite au moins d'exister, parce que quoi qu'on dise, par le passé, ce taux d'échange a toujours été brandi comme étant le miroir aux alouettes, peut-être, de l'économie. Alors, aujourd'hui qu'il dégringole, on ne peut pas non plus que c'est comme si rien ne s'était passé. Alors, l'économie marche un peu comme le corps humain. Quand il tombe malade, la thérapie prend du temps pour que l'organisme fonctionne correctement. Ici, je crois qu'il y a des paramètres qui vont finir par impacter le quotidien de la population. Je pense notamment au prix du carburant. Le prix du carburant n'a pas baissé dans les mêmes proportions que les taux d'échange, mais il a quand même baissé. Après, fonds de carburant, les pétroliers disent j'ai toujours l'ancien stock, le temps d'attendre le nouveau à un tarif un peu plus réduit. Et de fil à mesure, on va arriver au prix de transport. Le prix de transport, c'est un élément clé dans la fixation des prix des biens de consommation dans notre pays. Donc, une fois que le prix du carburant aura impacté à son tour le prix du transport en commun, eh bien, nous aurons la suite qui fera que le prix des biens de consommation vont baisser. C'est vrai, c'est pas un coup de magique. Cela va prendre un certain temps. Moi, je voudrais apporter le bénéfice du doute à la Banque centrale parce que il y a des pays où le taux d'échange est maintenu de manière stable. C'est vrai qu'il y a tout autour aussi pas mal de pratiques. Quand vous prenez le Burundi, par exemple, je crois que la RDC n'a rien à envier au Burundi, mais tout ce qui est produit local, c'est bon pour une bouchée de pain. Les taux d'échange est maintenu tel qu'ils l'ont maintenu, le fonds ne bouge pas. Et ce qui nous amène une forme de stabilité pour tout ce qui concerne la production locale. Évidemment, maintenant, comme nous sommes dans une économie extravertie, lorsqu'il va falloir aller s'alimenter sur les marchés internationaux, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il y aura peut-être des équilibres. Mais profitons de ces moments-ci pour promouvoir les produits congolais. Et je crois que notre pays a la capacité largement de nourrir sa population.
Merci, Madame Bernadette Kamango. Cette intervention de la Banque centrale en injectant des devises étrangères, environ 50 millions de dollars américains sur les marchés pour éponger la masse monétaire, donc le franc congolais, certains experts pensent qu'en prenant des mesures conjoncturelles pour résoudre des problèmes ayant des causes structurelles, les résultats ne pouvaient être que celui que nous constatons, n'est-ce pas, sur le terrain. Comment vous réagissez à cette appréciation, Madame Bernadette Kamango?
Bon, je pense que cette appréciation est quand même quelque part à saluer, hein, parce que ce n'est pas normal dans un pays qu'il puisse y avoir deux monnaies qui circulent à la fois, une monnaie étrangère et une monnaie nationale. Quand on va dans d'autres pays étrangers, vous ne verrez jamais cette dualité monétaire. Vous verrez même que la monnaie locale est la plus forte. Et si vous vous ramenez là-bas avec des dollars en poche, ben vous allez un peu regretter d'être venu avec des dollars. Et il y a aussi tout un encadrement concernant, par exemple, s'il faut faire le change de cette monnaie à l'étranger. Il n'y a pas seulement le dollar, il y a aussi, on peut prendre aussi l'euro et tout ça. Bon, moi je pense que si ce mouvement monétaire que nous voyons actuellement va dans le sens de rendre la monnaie locale beaucoup plus forte, c'est vraiment à saluer. Parce que si on regarde l'histoire du pays, à l'époque mobutiste, il y a une époque où la monnaie locale n'avait rien à envier par rapport au dollar. Même, je me souviens, quand vous êtes arrivé, il avait aussi fait certaines réformes afin de rendre cette monnaie un peu plus forte. Mais je crois que, comme John Ngomboa l'a souligné tout à l'heure, nous sommes un pays malheureusement extroverti. Nous importons plus que nous exportons. Et je pense particulièrement que ça, c'est vraiment une occasion pour valoriser d'abord la production congolaise. Hein, nous avons des beaux produits, nous avons par exemple des terres arables. Il suffit qu'on puisse un peu booster le secteur agricole, le secteur de l'élevage, tout ce qui tourne autour de la production avec à côté la production minière. Je pense que le pays peut s'en sortir si on met vraiment une politique gouvernementale qui pourra permettre justement de booster cette production et de devenir un pays exportateur plutôt qu'un pays importateur. Et je pense aussi, à côté de ça, il y a le mouvement de baisse des produits de première nécessité sur le marché congolais pourrait être favorisé si, par exemple, il y a la baisse du prix des transports. Parce que jusqu'à présent, malheureusement, bien qu'il y ait la baisse du carburant à la pompe, nous constatons toujours ce mauvais comportement de nos transporteurs. Bien que l'hôtel de ville fixe des prix, ces prix ne sont même pas respectés par les transporteurs. Je pense qu'il serait temps, c'est aussi une occasion aussi pour que l'hôtel de ville soit un peu plus regardant et qu'il sanctionne beaucoup plus ce mauvais comportement là de nos transporteurs sur le marché congolais, parce que je suis sûre qu'actuellement, il y a quelques biens de denrées alimentaires qui ont baissé, tels que le riz, le pain qu'on appelle kangajoune, qui ont quand même baissé. Avant-hier, j'étais même à Zimbabwe, où j'ai acheté un pot de haricots à 2000 francs. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites, mais c'est maintenant à l'hôtel de ville, parce que c'est le gouvernement provincial qui doit pouvoir s'imposer. Mais nous avons aussi toutes les autorités compétentes en la matière qui doivent être beaucoup plus regardantes,
merci,
être beaucoup plus sévères en ce qui concerne justement la fixation de tous les prix.
Merci. Saïdi Kaba, il y a des experts qui estiment que la diversification de l'économie nationale serait une solution idoine à ces phénomènes que nous déplorons aujourd'hui. À votre avis, qu'est-ce qui peut faire que beaucoup des pays africains ont du mal à diversifier leurs économies? Les pays s'accrochent, ont tendance à s'accrocher pour certains au secteur minier, pour d'autres au secteur des hydrocarbures, en négligeant des effets d'autres secteurs vitaux tels que l'agriculture. Comment vous expliquez cela, Saïdi Kaba?
Non, il y a un choix de facilité. Dans la plupart de nos pays, le fait d'exporter des biens sans aucune transformation de premier niveau fait qu'on a des recettes, alors que dans le même temps, on est tributaire du marché d'échange, à la fois et aussi du cours de ces matières premières qui sont exportées. Quand vous prenez les pays pétroliers, ils partent du principe que, en exportant le pétrole, ils n'ont pas besoin de développer l'agriculture, ils n'ont pas besoin de développer la pêche, ils n'ont pas besoin de travailler le commerce. Donc, ça crée une dépendance à une seule matière. Et un pays comme le Nigeria, je prends cet exemple, lorsque le cours du pétrole baisse sur le marché international, se retrouve dans des situations difficiles parce que il n'a pas diversifié son agriculture, il n'a pas diversifié. Donc, il faut quand même que nous ayons des économies qui puisse s'appuyer sur plusieurs piliers à la fois, que ce soit l'agriculture, le pétrole, l'élevage, la pêche, etc. Et je crois que ce piège du monoproduit de nos économies, nous continuerons à le payer tant que nous ne diversifierons pas nos économies. Aujourd'hui, il y a non seulement le besoin d'exporter des matières qui sont transformées, et non des matières brutes, pour avoir une valeur ajoutée sur nos économies, mais il y a ce besoin de diversification qui doit être impératif. Et la situation que vit la RDC aujourd'hui prouve la nécessité et même l'urgence d'avoir des économies diversifiées, mais aussi d'avoir de la souveraineté monétaire. Il n'est pas normal que l'économie d'un pays dépende d'une devise étrangère. Le dollar n'est pas une monnaie du Congo. On ne peut pas structurer son économie, faire dépendre son économie à partir d'une devise étrangère sur laquelle on n'a aucun contrôle. La monnaie est un instrument de la souveraineté nationale. Donc, il faut absolument trouver les moyens de procéder à la dédollarisation de l'économie congolaise pour que l'économie ne puisse pas continuer à dépendre d'une devise étrangère et qu'on se retrouve dans les situations de fragilité dans lesquelles on se trouve aujourd'hui en RDC.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Mwanampo, cette chanson interprétée par un collectif de musiciens congolais. On écoute donc Mwanampo et on se retrouve juste après.
koma
ma ebongi tozala na bongo ya makasi mpona lokumu ya mboka
ya ekonomi ya mboka na yo
ebongi tozala na mbongo ya makasi tolenge ya franc
C'était Mwanampo, chanson sortie en 1998 lors du lancement du franc congolais. Cette chanson a été interprétée par un collectif de musiciens congolais sous la direction artistique du maestro Suzy Kasea. On revient à l'actualité cette semaine. Les conclaves des forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo convoquées à Nairobi au Kenya par l'ancien président de la République Joseph Kabila met en place une nouvelle plateforme politique dénommée le mouvement Sauvons la RDC. Réuni mardi et mercredi autour de l'ancien président pour un conclave sur l'avenir du Congo, les acteurs politiques et figures de la société civile ont rejeté l'arrêt de la haute cour militaire portant condamnation à mort de Joseph Kabila, considérant que cette décision est nul et sans effet, car contraire à la Constitution et à la loi portant statut d'ancien chef d'État. Les participants ont dressé un diagnostic alarmant du pays, dénonçant une crise multiforme due, selon eux, à des dérives politiques, économiques et sociales. Ils accusent le pouvoir en place de violer la Constitution, de restreindre l'espace démocratique et d'instrumentaliser la justice. Les conclaves appellent à un dialogue inclusif soutenu par la CENCO et l'ECC pour sortir de la crise, rejetant tout mon monologue politique projeté, selon eux, par le président Félix Tshisekedi. Ils affirment que ces nouveaux cadres politiques, les mouvements Sauvons la RDC, vise à mettre fin à la tyrannie, restaurer la démocratie et favoriser la réconciliation nationale. Les mouvements décident d'engager une offensive diplomatique pour sensibiliser la communauté internationale sur la crise qui déchire la RDC et exige le retrait de toutes les troupes étrangères et des mercenaires du territoire congolais. Enfin, les mouvements appellent la population à résister à la dictature pour sauver la RDC. John Gomba, vous êtes journaliste, directeur des informations d'Antenne A, une télévision privée qui émet de Kinshasa. Vous avez souhaité nous parler de cette actualité. On vous écoute.
Merci Guy Maté. En fait, je voudrais d'abord revenir sur l'aspect anecdotique. Ce mouvement, mouvement selon la RDC, qui n'est pas pour rappeler un autre mouvement à peu près similaire, qui s'appelait Sauvons les Congo. Et ce mouvement a été lancé par un pasteur.
Les bishops de Coutinho.
Le pasteur Coutinho. Voilà, les bishops Coutinho, pour ne pas le citer. Et l'ironie du sort, c'est que le bishop Coutinho a été l'une des victimes du régime Kabila. Et qu'aujourd'hui, on ait choisi un nom similaire pour lancer ce mouvement. Je trouve que, il y a peut-être du cynisme ou les gens manquent d'originalité. Bon, cela dit, ce qui s'est passé à Nairobi, pour moi, il faut le comprendre dans le contexte actuel de la RDC où nous avons des politiciens professionnels qui ne peuvent pas vivre en dehors de la politique, c'est-à-dire aux mamelles de l'État. Ils s'alimentent sur le trésor public et sur la misère de la population. Et donc, chaque fois qu'un groupe se retrouve éloigné des manettes du pouvoir, il crée un contexte pour pouvoir revenir. Et donc, ça, c'est simplement une stratégie pour revenir au pouvoir, parce que ceux qui sont réunis à Nairobi, vous trouvez beaucoup de contradictions entre eux-mêmes. Je ne sais pas s'ils ont une idéologie quelconque, parce qu'eux-mêmes, ils étaient déjà hier, pas mal d'entre eux étaient les adversaires politiques. Alors, je ne sais pas au nom de quoi est-ce qu'ils ont mis de côté cette adversité qui était même viscérale pour certains. Je ne sais pas si c'était le cas de mon aîné Franck Diongo qui en veut à mort à Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, on trouvait la même personnalité en train d'encenser l'ancien chef de l'État. Bon, on tombe à la renverse, mais bon, si on ne connaît pas la classe politique congolaise, ça vous surprendrait. Mais c'est tout à fait normal dans notre pays.
John Ngombwa.
Moi, je crois que...
Oui. Oui, parce que vous parlez des opposants. Oui, parce que vous parlez des opposants. Apparemment, initialement, l'objectif était de fédérer toute l'opposition congolaise autour de Joseph Kabila. Mais il y a des opposants tels que Moïse Katumbi, Délice Sanga et Martin Fayulu qui n'ont pas répondu, n'est-ce pas, à l'invitation. Comment vous comprenez l'absence de ces opposants à ces conclaves?
Non, mais je pense qu'ils ont encore un peu de dignité. Parce que comment voulez-vous que l'ancien président devienne aujourd'hui le leader de l'opposition? C'est quand même assez effarant quand on connaît l'histoire récente de notre pays. Moi, je comprends Joseph Kabila. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de ce pays. Il est sorti par la grande porte. Mais là, il a fait une rentrée en politique qui est ratée. Parce que, voyez-vous, que le président Kabila est revenu par le Rwanda et par Doha. Il n'est pas un saint, et ceux qui sont au régime actuel ne sont pas des saints non plus. Mais ce qu'on ne sait pas comprendre dans son attitude, c'est jusqu'à ce jour, pourquoi il n'a pas condamné le Rwanda agresseur. Et cela s'est établi même par les Nations Unies. Et donc, ceux qui ne sont pas allés, je crois que c'est des gens qui ont encore un peu de dignité. Parce que tous les autres, on sait comment ça marche. Le président Kabila possède des moyens importants, des moyens financiers importants. Et la plupart de ces gens viennent simplement dans une démarche alimentaire et on leur a payé des billets d'avion, on va leur donner des paires d'IM et tout ça, ils vont faire une déclaration. C'est simplement triste pour notre pays. Bon, mais cela dit, moi je ne suis pas contre qu'il y ait un dialogue. Il nous en faut un, j'allais dire un autre, on en a trop fait. Il en faudra un, mais est-ce que ce dialogue, ça sera le président Tshisekedi face au président Kabila, parce que c'est ce que je crois le président Kabila est en train de monter, et je doute fort que ça soit ce format-là.
Merci. C'est Eddie Kaba, vous êtes journaliste et universitaire, vous êtes président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, Think Tank, basé à Paris. Vous avez publié plusieurs ouvrages, notamment le Sahel, notre Afghanistan. Les participants à ces conclaves sont restés, n'est-ce pas, dans la rhétorique de l'opposition qui consiste à dénoncer une crise multiforme due, selon eux, à des dérives politiques, économiques et sociales. Ils accusent les pouvoirs en place de violer la Constitution, de restreindre l'espace démocratique, d'instrumentaliser la justice. Saïdi Kaba, au-delà de tout cela, quels pourraient être les jeux politiques auxquels se livre Joseph Kabila à travers cette initiative?
Non, je crois que l'ancien président Kabila veut revenir encore dans le jeu politique et en essayant d'organiser ce conclave à Nairobi, il essaie de reprendre la main par rapport à une situation un peu difficile dans laquelle il se trouve à la fois sur le plan judiciaire avec les poursuites qui ont été engagées contre lui et aussi son positionnement dans la crise actuelle. Puisque comme il a été dit un moment, on l'a dit qu'on l'a aperçu à Goma, même si ça a été démenti. Ensuite, il n'a pas pris officiellement position contre l'invasion du pays par le M23 avec le soutien dénoncé du Rwanda par les Nations Unies. Donc je crois qu'il y a une volonté chez lui d'exister sur le plan politique, de reprendre la main et éventuellement d'avoir une carte à jouer demain, si demain l'occasion se présente, à l'occasion des présidentielles ou à l'occasion d'autres élections. Moi je crois qu'il y a une stratégie politique derrière tout ce qui se fait aujourd'hui, et à la fin l'ancien président Kabila voudrait avoir un poids dans la vie politique actuelle de la RDC.
Merci Madame Benalès Kamango, défenseuse des droits des femmes, vous êtes également autrice d'ouvrages sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Les participants ont rejeté l'arrêt de la haute cour militaire portant condamnation à mort de Joseph Kabila, considérant que cette décision est nulle et sans effet car contraire à la constitution et à la loi portant statut d'ancien chef d'État. N'est-ce pas là une façon de blanchir l'ancien président Joseph Kabila, Madame Benalès Kamango?
Bon, blanchir l'ancien chef de l'État, ça c'est à leur niveau, hein, c'est leur opinion. C'est leur opinion à eux. Bon, ils ont le droit de s'exprimer à leur manière. On ne peut rien dire contre ça. Parce que moi, cette réunion, cette rencontre de Nairobi, personnellement, c'est un non-événement pour moi. Et je pense que tout ça, je le mettrai plutôt dans le compte de la dynamique politique. La dynamique politique dans laquelle les relations se font et se défont, se refont, se redéfont selon les enjeux et les intérêts politiques qui sont d'actualité. Donc c'est un peu ce qui se passe au niveau de Nairobi. Je pense que tout le monde se retrouve, les ennemis d'hier sont devenus les amis d'aujourd'hui, les amis d'aujourd'hui sont devenus des ennemis d'aujourd'hui. Et c'est un peu cette dynamique, c'est une façon de rester un peu sur la scène politique. Si tout le monde se réunit autour de Joseph Kabila, bon, on peut dire que c'est quand même un ancien chef de l'État. Alors en tant qu'ancien chef de l'État, ce n'est que normal qu'il puisse porter cette casquette. Et s'il y a des tels ou tels qui sont là, d'autres qui ne sont pas là, bon, je ne vois même pas pourquoi on doit en faire tout un tas. Ce n'est que normal pour moi qu'il y ait ce genre de rencontre. Je pense dans l'histoire du pays, ce sont des genres de mouvements qui ont toujours existé et qui vont continuer à exister perpétuellement. Et le pays a toujours été en crise. Nous avons par exemple 30 ans de crise avec ces conflits armés qui tirent le pays vers le bas. Chacun a sa façon de réagir par rapport à ça. Joseph Kabila vient d'être condamné à mort ici en RDC, donc il essaye aussi de se maintenir, d'assurer sa visibilité et de faire comprendre au monde entier que malgré tout, donc il n'a que faire de cette condamnation. Moi je continue à vivre et puis je continue à m'assumer à ma manière. Donc pour moi cette rencontre personnellement c'est vraiment un non-événement et c'est tout à fait normal parce que nous sommes dans un pays démocratique. Et qui dit démocratie, donc ça doit s'asseoir avec la voix de l'opposition, avec la voix de la société civile. Et c'est ce qui fait le contrepoids d'un régime quand on est dans un pays démocratique. Donc pour moi, c'est tout ce que je peux dire. Ils ont le droit de s'exprimer, de penser ce qu'ils veulent penser. Donc c'est ça la politique en fait, c'est la dynamique politique.
Merci, chères auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. L'agence Equinox Mondial Pro annonce l'organisation du spectacle baptisé Souvenirs des gares qui ont vécu. C'est le samedi 8 novembre prochain à 18h dans la salle des Congo Loisirs sur l'avenue des Libérations, ex 24 novembre dans la commune de Lingwala. Des chanteurs décédés tels que Al Pacino, Kisangani Espérant et Mbutamutu Rajakula seront honorés au cours de cette manifestation. Nous allons aujourd'hui écouter une des compositions de Sangani Espera Djengaka, la chanson Belotti, sortie en 1981 dans l'orchestre Viva la Musica de Papa Wemba. On écoute donc Belotti de Sangani Espera et on revient juste après.
Radio Okapi,
regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire sur les paradoxes entre l'appréciation constatée du franc congolais et le maintien des anciens prix sur les marchés. Nous avons également analysé la création d'une plateforme politique dénommée les mouvements sauvant la RDC. C'était lors du conclave d'une frange de l'opposition congolaise à Nairobi, convoquée par l'ancien président Joseph Kabila. Participe à cette émission, John Ngombo est journaliste et directeur des informations d'antenne A, une télévision privée qui émet de Kinshasa. Madame Bernadette Kamango est défenseuse des droits des femmes et elle est également autrice d'ouvrages sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Seydi Kaba, il est journaliste et universitaire. Il est président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, think tank basé à Paris. Il a publié plusieurs ouvrages, notamment « Le Sahel, notre Afghanistan ». Les gouvernements congolais et les rebelles de la FCM23 ont signé le mardi 14 octobre 2025 à Doha, sous la médiation du Qatar, un mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Cette étape intervient après plusieurs étapes de négociations difficiles et marque une avancée importante dans les processus de paix. Les négociations en cours vont porter également sur l'échange des détenus entre les deux parties pour lesquelles un autre mécanisme signé auparavant avait confié au Comité international de la Croix-Rouge CICR un rôle d'intermédiaire neutre pour l'identification et la libération des détenus, l'un des points clés de divergence dans les discussions. Un autre dossier à l'ordre du jour, c'est les retours des réfugiés congolais installés dans les pays voisins qui restent sensibles. Le gouvernement demande une identification préalable et refuse un rapatriement dans les zones encore en conflit, tandis que le M23 revendique un rapatriement immédiat. Ces dispositifs visent à assurer le contrôle réel de la pause dans les hostilités dans une région marquée par une longue instabilité. Ces mécanismes de surveillance du cessez-le-feu s'inscrivent dans une série de démarches engagées depuis juillet 2025 dans le cadre du processus de Doha pour aboutir à un accord de paix global en RDC. Seydi Kaba, vous avez souhaité nous parler de la signature entre les gouvernements congolais et les rebelles de la FCM23 d'un accord sur les mécanismes de surveillance et de vérification du cessez-le-feu dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. On vous écoute.
Non, je crois que c'est un événement important parce que on sait qu'en juillet dernier, il y a eu un accord de cessez-le-feu, mais en dépit de la signature de cet accord, les incidents ont continué. Les affrontements armés ont continué et chacune des parties accusant l'autre d'avoir violé le cessez-le-feu sans qu'on soit dans la mesure de vérifier qui a raison, qui a tort. Avec la signature de cet accord de la surveillance du cessez-le-feu le 15 octobre à Doha, on franchit une nouvelle étape parce que on va créer un comité paritaire composé d'éléments de l'AFCM23 et du gouvernement pour assurer la surveillance de ce cessez-le-feu avec l'accompagnement des États-Unis, du Qatar, de l'Union africaine. Et cette structure-là qui va bénéficier du soutien logistique de la MONUSCO pourra, à chaque fois qu'il y a une accusation, aller vérifier quelle est la véracité de cette accusation, en quoi est-elle fondée, en quoi n'est-elle pas fondée, qui est responsable. Je crois que ça peut créer une situation de non-belligérance, en tout cas un arrêt des hostilités, et cet arrêt des hostilités va permettre de mettre en place l'agenda du règlement politique, puisque comme on sait, depuis l'accord qui a été signé entre le Rwanda et la RDC en juin sous l'égide des Nations Unies, il y a une volonté d'avancer vers un règlement politique, et on se souvient, il n'y a pas longtemps, le président Félix Tshisekedi a proposé à son homologue rwandais de faire la paix de Breuve. Donc moi je crois que avec l'accord, avec la mise en place de ce comité de surveillance du cessez-le-feu, on va avancer vers l'agenda politique et trouver une solution politique qui en tous les cas ne peut être que la seule dans le contexte actuel de la crise que vit l'Est de la République démocratique du Congo.
Oui, Sadi Kaba, justement, qu'est-ce qui pourrait, à votre avis, déterminer l'issue de cette crise? Les pressions des deux garants, les États-Unis et les Qatar, sur les partis, ou c'est plutôt les rapports de force sur le terrain qui seraient déterminants?
Non, je crois que la pression des États-Unis est déterminante. Vous avez vu, à partir du moment où les États-Unis se sont mis dans le règlement politique, il y a eu cet accord entre la RDC et le Rwanda, alors que personne ne pensait qu'un tel accord pouvait être possible il n'y a pas longtemps. Donc la pression américaine, surtout qu'aujourd'hui, moi je considère qu'il y a une opportunité, l'Amérique étant dégagée un peu de la crise au Proche-Orient, puisque les États-Unis ont imposé l'accord entre le Hamas et Israël, maintenant ils auront plus de temps pour s'occuper des agendas de crise comme ce que vit la République démocratique du Congo et le Soudan. À mon avis, l'implication américaine qui va être plus importante désormais pourrait conduire à un règlement politique. C'est beaucoup plus cela pour moi que le rapport de force qui va être déterminant. La pression du Qatar, la pression des États-Unis plutôt, l'accompagnement du Qatar peut permettre d'aller plus rapidement vers une solution politique, surtout dans le contexte actuel.
Merci, Madame Bernadette Kamango. Comment vous entrevoyez l'évolution de la situation sécuritaire dans les provinces du Nord et du Sud Kivu après cet accord, la signature de cet accord sur le mécanisme de surveillance et de vérification des cessez-le-feu dans ces deux provinces?
Bon, concernant ces deux provinces, je peux dire qu'il n'y a qu'un seul mot. Quand on appelle de temps en temps les personnes qui sont là-bas sur nous, il n'y a qu'un seul mot que la population attend, c'est le mot paix. C'est le mot paix. Donc si tous ces accords de Doha, Washington, ou bien tout ce qui se passe avec l'Union africaine, si tous les efforts n'ont que comme objectif de remettre la paix sur cette population meurtrie de l'Est, mais on ne parlera pas seulement sur cette population, sur la RDC, parce que la situation qui prévaut à l'est du pays a un impact aussi sur toute la République. Moi, je pense que les discussions qu'il y a là-bas au niveau de Doha, c'est quand même essentiel, parce que ça permet quand même à ceux que les partis concernés puissent se rencontrer, puissent dialoguer. Et dans toutes circonstances, quand il y a un conflit quelque part, si on parvient quand même à dialoguer, à se parler, à réfléchir sur des solutions, c'est déjà des avancées à encourager. Moi, je pense que les choses vont effectivement petit à petit, parce que je sais qu'il y a un certain moment, je crois vers le mois de juin, juillet, quand on nous a parlé des signatures qui devaient se passer à Washington, qui devaient se passer à Doha, c'est tous les Congolais qui manifestaient un grand espoir par rapport à ce qui se passe. À un certain moment, on a eu l'impression qu'il y avait quelques lenteurs. Bon, ce n'est que normal, parce que quand il y a des discussions, c'est pas que toute chose, ça sera oui directement. Ça prend un peu de temps, mais l'objectif, c'est d'atteindre la paix. Comme on parle des échanges des prisonniers, on parle des réfugiés, on parle de tout ça, c'est déjà beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment... une rencontre à ne pas du tout, un processus plutôt à ne pas négliger et à encourager de toutes nos forces.
Merci, John Gombwa. Qu'est-ce qui devrait être fait pour que ce nouvel accord soit réellement respecté par les belligérants?
Je crois que il n'y a que la pression qui puisse être faite. Parce que de part et d'autre, c'est le seul moyen que les acteurs comprennent une pression qui peut être financière, diplomatique, mais il faut une pression absolument permanente. Et on a beau dire ce qu'on veut sur Donald Trump, mais je pense que ce monsieur sera une règle de bénédiction pour la RDC, parce que je ne pense pas que les acteurs actuels auraient accepté de réaliser les avancées que nous enregistrons actuellement.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Bouquet des fleurs de Djuna Djanana dans l'orchestre Langlangastar. On se retrouve juste après.
Ngayo 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 bolingo na ngai moko ye Yanga moko ye ngai baba Una janana ala ala janana Folinanga damu Umeminga mote manyoso keina mwango Najikali lukula ebole Nakomisala ojenge Kutu kutu makila mazutu manga makauki Mama musugi na weli nilio Naya pamba na lalaki, eme misinga ngambo, 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 na mote mananga, preferai. Kidanga waya mabaso simbanga, anga na leli. Oto imigrege na mwanaka moto oyo na sangi, akei akase. Akotino se yanyo kolongo nanko Anga nalembi Tita, mwansirike choko Bouquet de fleurs inangai Mopimba nanganyo sona besa na yoye Bouquet de fleurs inangai Nakoze la se oya yo maloba o O aksas na yo e pananga e komanda kwa libombe oho Afi Bouquet de forêt nangai Azalaka na ye kutu awate o Bouquet de forêt nangai Na koze la se oya ye madoba o Po aksas na ye e pananga e komanda kwa libombe o Afida Tita Motema ya pele mongo
Bouquet des fleurs de Juna Janana dans l'orchestre Langa Langa Star. Je rappelle que nous avons dans cette émission John Gomba, journaliste et le directeur des informations d'Antenne A, une télévision privée qui émet de Kinshasa, Madame Bernadette Kamango, défenseur des droits des femmes, elle est également autrice d'ouvrages sur la lutte contre les violences basées sur le genre, et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Seydi Kaba, journaliste et universitaire, il est président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel Think Tank basé à Paris. Il a publié plusieurs ouvrages, notamment « Le Sahel, notre Afghanistan ». Les femmes rurales de Massissi au Nord Kivu réclament de l'État la reconnaissance de leur travail, la garantie de leur accès à la terre et l'investissement dans les infrastructures rurales. À l'occasion de la Journée internationale de la femme rurale célébrée chaque 15 octobre, elles ont affirmé être les catalyseurs de la sécurité alimentaire de la région. Bien que pilier central de la production agricole locale, leur contribution reste souvent invisible, minée par plusieurs obstacles socio-économiques. Une force motrice de l'agriculture sous-estimée. Dans les villages des Massissi, ce sont les femmes qui cultivent le manioc, le maïs, les haricots ou encore les pommes de terre. Mais comme le rappelle Mme Zaina, présidente de la coopérative Tuungana, ces travailleuses de la terre se heurtent à des réalités dures. Les champs appartiennent traditionnellement à l'homme, les femmes n'ont pas de droits fonciers. Ensuite, les changements climatiques détruisent nos cultures. Enfin, l'absence des routes complique l'écoulement de nos récoltes vers les marchés a-t-elle rapporté. Face à ces difficultés, des organisations locales comme la coopérative agropastorale Tuungana soutiennent les femmes à travers des formations en agriculture durable, la mise en place des groupes d'épargne avec un sigle et des aides ponctuelles en matériel agricole. Mais les besoins restent immenses. Madame Bernadette Kamango, vous avez choisi de nous parler de cette journée dédiée à la femme rurale pendant que cette femme garde toujours l'image de la pauvreté. On vous écoute, Madame Bernadette Kamango.
Oui, chaque 15 octobre, donc c'est la journée mondiale de la femme rurale, où on célèbre justement l'apport de la femme rurale dans le développement. J'en profite pour faire un hommage aux femmes rurales de l'Est du pays, pour lesquelles, particulièrement, leurs champs sont devenus des champs de bataille, au lieu d'être des champs où on peut aller cultiver comme il faut. En dehors de ça, il faut se rappeler que l'objectif du développement rural, c'est justement l'atteinte à l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes, et aussi doubler la productivité agricole des revenus des petits producteurs alimentaires, dont la femme rurale. Malheureusement, quand on nous présente cette femme rurale, cette brave femme rurale qui nous nourrit chaque jour, c'est toujours l'image de la pauvreté. Même quand on pose une photo sur les murs du secteur agricole, on vous mettra toujours l'image de la femme qui a son bébé sur le dos, deux enfants à côté, peut-être un enfant encore dans le ventre, habillée de manière débraillée. Et c'est cette image, malheureusement, qui fait que le secteur agricole n'attire pas, n'est pas un secteur attirant pour les jeunes. Or, on connaît que dans le monde, il y a des pays qui se sont parfaitement développés grâce à l'agriculture. Ici, en RDC, la main-d'œuvre concernant ce secteur agricole, elle est à 43% féminine. Et malheureusement, bien que ce secteur est suffisamment féminisé, on constate que la femme continue toujours à rester dans ce carcan de la pauvreté, avec les mêmes difficultés, les mêmes défis, malgré les programmes, les projets d'encadrement, de financement et autres qui devraient justement permettre à ce qu'elle puisse décoller. La question que je me pose, c'est est-ce que on essaye toujours de maintenir cette maman dans ce cadre-là de la pauvreté, en la maintenant toujours dans son travail avec des moyens rudimentaires, avec le manque d'accès, tout à l'heure vous l'avez dit, le manque d'accès aux terres. Les terres appartiennent beaucoup plus aux hommes, mais encore plus le manque d'accès au microcrédit. Parce que c'est par le microcrédit que la femme peut mieux développer son activité. Et quand une femme parvient à avoir accès au microcrédit, elle se concentre à développer son activité, ça lui permet d'atteindre l'autonomisation. Une femme qui est autonome, une femme qui sait prendre en charge toute sa famille, c'est une femme qui peut mieux participer justement à la lutte contre la pauvreté, à la lutte contre la faim ici en RDC. Mais je n'ai jamais compris pourquoi chaque 15 octobre, quand on célèbre la femme rurale, ça sera toujours des femmes qui viennent avec des bassins sur la tête, des produits agricoles, qui viennent avec la houe. Alors que moi, je sais qu'à l'époque, j'ai travaillé dans un projet où le projet était la mécanisation agricole. Il y a eu effectivement des tracteurs à une certaine époque, un projet des tracteurs qui avait été donné aux agriculteurs et particulièrement aux agricultrices. Quand nous nous rendions sur terrain pour essayer de voir un peu, faire l'évaluation de la production agricole avec cette mécanisation, on trouvait que soit le tracteur avait été confisqué par un notable du village qui le coinçait dans son garage, ou bien un autre notable le prenait pour faire ses propres courses, ça devenait comme sa voiture au village, ou bien pour une raison ou une autre, les paysans n'avaient pas accès à ces tracteurs-là et ils étaient obligés de retourner à la houe avec leurs moyens rudimentaires. Or, c'est par la mécanisation que le secteur agricole peut permettre de booster la production, de booster aussi le développement du pays. Je pense qu'il est grand temps de pouvoir changer l'image de la femme en la rendant un peu plus forte, en lui accordant justement l'accès surtout au microcrédit, parce que il n'y a pas que les femmes. Quand on parle des femmes, on pense qu'il n'y a que la femme rurale, mais la femme générale, de manière générale, a difficile à avoir des microcrédits tout simplement à cause des conditions, à cause des taux, à cause des hypothèques qu'on peut lui réclamer et d'autres pesanteurs qui font qu'elle puisse pas justement devenir véritable une femme autonome. Moi, je pense qu'il est grand temps de pouvoir avoir un autre discours autour de la femme rurale. Que ce ne soit pas quand on voit la femme rurale qu'on fasse toujours sortir cette image de pauvre, de femme qui doit être dépendante. Or, on constate que pendant la période électorale, c'est toujours vers elle que les candidats vont réclamer leur voix, vont aller les tromper avec des fricots et patati patata. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, on les oublie. Donc il faut vraiment qu'on essaye de faire un effort et c'est cette politique au niveau du ministère du genre, au niveau du ministère même de l'économie, au ministère du budget, on devrait essayer de chercher d'autres projets que ce financement ne soit pas toujours des financements qui viennent de l'extérieur.
Merci.
On doit pouvoir essayer de trouver des moyens que ces financements soient des financements purement congolais. Comme ça, ça nous permettra de mieux s'occuper de cette femme.
Merci. Saïdi Kaba, quelle est la situation de la femme rurale au Niger, d'où vous êtes originaire?
La situation qui a été décrite est à plusieurs égards la même dans mon pays et au Sahel, que je connais assez bien. La femme rurale a beaucoup de difficultés, mais je crois que la question qui a été posée peut être abordé en deux volets. D'abord, l'importance de l'agriculture dans nos pays et les économies. L'agriculture représente environ 40% du PIB du Niger et ça représente environ 80% de la main-d'œuvre active. Mais paradoxalement, cette agriculture n'est pas suffisamment valorisée. Le pays compte plus sur l'exportation de l'uranium, sur l'exploitation du pétrole, alors que c'est au niveau de l'agriculture qu'il y a la possibilité de créer des emplois pour aider les jeunes, les insérer dans l'économie et éviter qu'ils soient exécutés par les groupes terroristes. Je crois que tous nos pays, la RDC, le Niger et d'autres pays, ont intérêt à miser sur l'agriculture, sa mécanisation, son développement, faire de l'agriculture une économie, l'agribusiness, avec pas seulement des gens qui ont échoué dans le système scolaire, mais des gens qui deviennent des vrais entrepreneurs, des jeunes qui s'investissent pour faire de l'agribusiness. Ça, il y a quelque chose à faire et la question du financement se pose. La deuxième chose, les femmes étant un acteur important de la production agricole aujourd'hui, il faut que nos législations leur garantissent la propriété foncière. Dans beaucoup de nos pays, les femmes sont exclues de la propriété foncière. Ça, c'est une aberration que nous devons corriger. La deuxième chose aussi, nous devons les accompagner pour accéder au crédit. Comme il a été rappelé aujourd'hui, l'accès au crédit est une difficulté parce que les banques demandent des garanties que les femmes ne peuvent pas apporter. Ensuite, il y a la question du taux. On vous prête à 13%, à 14%, alors que dans les pays occidentaux, le prêt est inférieur à 4%, inférieur à 3%. Donc, là aussi, il faut que nous puissions garantir l'accès des femmes au crédit. Si on fait cet effort, l'accompagnement de la mécanisation, l'accompagnement de la modernisation, l'incitation aux jeunes à aller vers l'agriculture, l'accompagnement des femmes qui sont un acteur important de notre production agricole, je crois qu'on pourrait arriver à sécuriser notre approvisionnement alimentaire. Aujourd'hui, l'Afrique exporte environ pour 34 milliards de dollars de produits alimentaires par an. Cet argent qu'on donne aux autres en faisant de l'importation, si on le met dans notre propre agriculture, non seulement on va créer des emplois, mais on va arriver aussi à une sécurité alimentaire. Nous avons été un des continents qui a le plus souffert de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, parce que on importe des biens, des céréales, des blés de la Russie ou de l'Ukraine, on importe des intrants agricoles de l'Ukraine ou de la Russie. Si on veut sortir de cette dépendance envers les autres, il faut que nous modernisions notre agriculture, et nous avons les moyens de le faire, parce que il suffit de reprendre l'argent qu'on met pour acheter des produits agricoles dans la modernisation de notre agriculture pour arriver à cette situation et changer le paradigme.
Merci John Ngomboa, nous allons finir cette émission avec vous. Quelle est votre lecture justement par rapport à la situation de la femme rurale en RDC?
Je pense que ce que vous dites, Guy Maté, est au cœur du développement de ces pays. Il y a deux concepts là, femme et rural. Lorsque notre pays saura donner la valeur à la femme et aux paysans ou aux paysannes, nous développerons la RDC sans apport extérieur. Alors pour les cas présents, je compatis aux difficultés qu'éprouvent les mamans dans la province du Nord Kivu et celle du Sud Kivu. Et j'ai fait observer en même temps que le Nord Kivu et le Sud Kivu produisent suffisamment de nourriture pour alimenter une bonne partie de la RDC. Et il se pose un problème d'évacuation, de routes ou d'acheminement. Alors, il y a un ministère du développement rural, je crois qu'il devrait prendre à cœur ce problème-là. Donner la valeur à la femme rurale redonnera le pouvoir d'achat à tous les citadins.
Merci beaucoup John, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer, Madame Bernadette Kamango, Monsieur Sedi Kaba et Monsieur John Ngomboa. Merci aussi à Patrick Kiasongwa qui était à la technique avec la participation de Debs Vita sous la supervision de Thérèse Kankou. À la présentation Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Okapi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiokapi.net. Nous allons nous séparer avec Coco Madimba de Warason dans Wenge Musica et on se retrouve le samedi prochain.
Coco Madimba, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Samy Madi, bébé Madimba, Jean Sola.
Yo kamati mokano kokochana simana kai. la kino na fozonga na yomo bali
lolo mobe
ela kota de ni bali ko bati ni se bali ko kome sana kolo makati na lela yo lela e koni ya kuye matima na posipe aiko na tuta kisolo pona moli mwongo una despe polo ba Na tosali sana, tosali baso de kolo moko yawe Atina bizo toli nana yawe pesa Nimbisa ni bango, adomu shangi Mabati bozunga le mutombo Toso shake merariete mama Mabati bozunga kle mamu benga Pazu sima
Kati mama shari oye bina bebine
Thank you.